Bonsoir.
Alors,
est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il paraît qu'il faut parler près. Donc, quelques secondes d'introduction et après, Monsieur Marcelli, que vous attendez, aura la parole. Donc, l'Espace Mendès France et l'École des parents et des éducateurs de la Vienne sont heureux de vous accueillir, nombreux, pour un lundi soir. Nous sommes vraiment ravis. Dans le cadre de la riche exposition que vous avez peut-être déjà vue en compagnie de vos enfants, la Fabrique de la Paix, et à l'occasion des 40 ans de la Fédération nationale des écoles de parents et d'éducateurs, nous sommes tombés d'accord pour proposer conjointement 7 conférences et 2 ateliers de parents qui auront lieu le 18 et 21 novembre de 14h30 à 16h. C'est un mercredi et un dimanche. Pourquoi ce choix d'horaire et de jour? C'est parce que ça correspond à des temps d'ateliers scientifiques pour les enfants. Donc nous nous sommes dit que quelques parents, au lieu de repartir pendant l'heure et demie d'atelier, seraient peut-être intéressés par un moment avec les animateurs de l'école des parents. Et cette animation se fera autour d'un jeu que vous avez peut-être vu en passant, que nous avions porté, qui s'appelle Chemin de parents.
Voilà.
Ce soir, le professeur Marcelli, qui est assez connu sur Poitiers, qui se présentera parce qu'il a des fonctions à la Fédération d'École de parents. C'est aussi notre président de l'association L'École des parents de la Vienne. Nous a proposé un titre, Les adolescents et la différence entre attrait et rejet. Donc, je pense qu'à la fin de sa prestation, un certain nombre de questions qui nous interrogent auront trouvé certainement un éclairage et nous repartirons sans doute un petit peu plus en comprenant en tout cas un petit peu mieux ce que vivent nos adolescents et ce qu'ils nous font vivre en même temps. Voilà, donc je laisse la parole à monsieur Marcelli. Merci et bonne soirée à tous.
Je te remercie, Nicole. Je te tutoie parce que notre vice-président de l'École des parents et des éducateurs de la Vienne, petite association qui est à combien d'années maintenant, 6 ans, j'allais dire 6 ou 7 ans. Je remercie également Christine Guiton et à travers elle le directeur de cet espace Mendès France à l'occasion de cette exposition sur la fabrique de la paix. Et je vous remercie surtout d'être là. Alors, c'est vrai que on avait discuté, surtout avec Mme Guiton dans un premier temps, la paix, la différence de l'autre, etc. Et je me suis lancé dans un titre, Les ados et la différence entre attrait et répulsion, ou attrait et rejet. En y repensant, je me suis dit, mais quelle idée m'a pris de proposer un tel titre? Parce que je fais pas ce genre de conférence, je fais des conférences sur la construction de l'adolescence, etc. Mais là, c'est un peu différent, donc ça m'a obligé à me nettoyer un peu les neurones et à réfléchir sur quoi? Et avec vous, réfléchir finalement sur la construction de l'identité à l'adolescence. Et au fond, c'est de cela dont il va être question, à travers et l'attrait et le rejet autour de la question de la différence. Ce que je vous propose, c'est réfléchir un peu, de discuter un petit peu ensemble, comme ça, et puis ensuite, on abordera des questions-réponses dans tous les domaines qui vous paraissent pertinents et que j'ai pu éventuellement oublier. Alors d'abord, je tiens à dire que nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes des animaux sociaux et nous vivons constamment en société avec des gens autour de nous. Et donc le rapport à l'autre est quelque chose dans lequel nous baignons en permanence, qui à la fois nous rend parfois malheureux et en même temps qui nous est nécessaire. Je trouve qu'on ne réfléchit pas assez souvent à cette simple statistique entre quelque chose comme 28-30 ans environ et 57-60 ans, 83% ou 85% des personnes vivent en couple, ne vivent pas seules. On pourrait se poser la question, pourquoi tant de gens vivent en couple alors que c'est si difficile de vivre en couple, qu'on se sépare, qu'on se remet, etc. Pourquoi chacun n'est pas dans son petit appartement de, je sais pas, de 40 ou 30 mètres carrés et peut comme ça tisser de temps en temps des contacts éphémères? Pourquoi ce besoin d'être en couple durablement alors que c'est si difficile? Dans un ouvrage déjà un petit peu ancien, Ricoeur, a évoqué la chose suivante, soi-même comme un autre, où il réfléchit justement sur la construction de l'identité. Et ce titre est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'il y montre dans ce soi-même comme un autre? Il montre que finalement l'autre est au cœur de nous-mêmes, avec la différence qu'on appelle l'altérité au cœur de nous-mêmes. Et que dans le rapport que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, l'autre est toujours présent, car c'est à partir de l'autre qu'on peut savoir qui on est. Sans cet autre-là, on ne peut pas savoir qui on est. Alors, dans son ouvrage, Ricoeur va décrire au fond deux temps de cette altérité. L'altérité dans l'instant, où c'est la différence avec l'autre présent physiquement. Hein, je suis différent de l'autre, je ne suis pas comme là, chacun assis, vous êtes différent de la personne qui est à côté de vous, tout en ayant effectivement des ressemblances. Donc ça, c'est la différence actuelle, dans l'actualité. Et la deuxième différence, c'est la différence dans la construction historique. Au fond, quand je repense à moi, j'ai à la fois le sentiment d'être aujourd'hui tel que j'étais il y a quelques années, mais en même temps, j'ai l'impression que mon moi actuel n'est pas tout à fait le même que celui que j'étais quand j'avais 20 ans ou que j'avais 30 ans. Et je suis aussi un peu un autre. Je suis devenu un peu un autre. Donc, c'est toujours en comparaison avec ces deux points de référence que je vais me situer, et sinon je ne peux pas savoir qui je suis. Alors cela a une traduction dans ce qu'on appelle maintenant, ce que les neurologues appellent le cerveau social. Le cerveau social, c'est dans la partie du cerveau, en particulier dans les hémisphères, toute cette partie du cerveau dont la fonction est d'essayer de comprendre l'autre, de comprendre les intentions de l'autre. Au fond, on peut penser qu'effectivement, comme il y a très longtemps, le petit animal, le futur humain, était un animal particulièrement démuni. Hein, l'animal, le futur humain, n'avait aucune des armes qu'ont les grands singes, qu'ont les grands prédateurs, qu'ont les grands. Voilà, il n'avait pas beaucoup d'armes. Et une de ses rares armes, c'était de vivre en groupe et d'avoir une solidarité de groupe. Et on peut penser que le cerveau s'est développé, le cerveau humain, et vous le savez que par rapport à tous les animaux, y compris les primates supérieurs, notre cerveau est nettement plus important, en particulier la partie frontale, antérieure du cerveau. Eh bien, ce n'est pas uniquement mes hypothèses, hein, c'est des hypothèses d'anthropologues, d'historiens. Plusieurs personnes estiment que ce cerveau s'est développé essentiellement pour mieux comprendre l'autre. Notre cerveau, c'est un appareil, c'est un mécanisme, c'est un organe destiné à comprendre l'autre. Au fond, qu'est-ce que l'autre attend, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va faire, où il va, etc. C'est un organe destiné à comprendre l'autre. Et effectivement, il y a probablement 1 million ou 1,5 million d'années, il y a un de nos ancêtres qui, à force d'essayer de comprendre l'autre, un jour s'est dit « mais moi, qu'est-ce que je pense ?» Alors ce jour-là, évidemment, ça a commencé à se compliquer parce que, à partir du moment où on invente la pensée réflexive, moi, qu'est-ce que je pense, l'autre devient presque une entrave. Hein. Moi, je veux penser indépendamment de l'autre. Moi, je veux penser par moi-même. Et là, vous avez tout à fait le souci des adolescents. Moi, je ne veux pas penser comme mes parents, je ne veux pas penser comme mon prof. Moi, je veux penser par moi-même. Mais justement, penser par soi-même, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut penser en extrayant de sa pensée toute la pensée des autres? Et ne penser, voilà. Donc, c'est une sorte de presque de folie au sens d'une chose utopique comme ça, que de croire qu'on puisse penser en extrayant toute pensée d'altérité, toute pensée de l'autre, de notre pensée. Mais en même temps, effectivement, quand on pense à partir de l'autre, on se dit, est-ce que c'est moi qui pense ou est-ce que c'est l'autre qui pense en moi? C'est-à-dire, évidemment, donc il y a un sentiment presque très vite de persécution. Donc, c'est bien un petit peu la problématique de l'identité. Hein, voilà, quand... Est-ce que c'est moi qui pense, moi vraiment, hein, ou est-ce que c'est effectivement l'autre qui m'a fourré ses pensées dans ma tête? Et aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est devenu une question obsédante de beaucoup d'individus, mais peut-être encore plus de la tranche d'âge des adolescents, auxquels on donne l'injonction d'être eux-mêmes, sois toi-même. Qu'est-ce que c'est que être soi-même? Justement, est-ce que c'est simplement d'extraire l'autre de toute sa pensée, de toute sa vie, entre guillemets. Donc, la question de l'identité inclut la question de l'altérité, et on sait que ce que Ricoeur appelle l'ipséité, ça serait une identité qui ne vient que de soi-même, à l'exclusion des autres. Ça serait le comble de l'identité narcissique. Je me regarde moi-même dans le reflet de la glace et dans le reflet des eaux, et je me penche tellement que je finis tomber dans le puits et me noyer. C'est-à-dire, effectivement, cette espèce de fascination de sa propre image qui serait le seul reflet que je tolérerais. Donc, cette ipséité, c'est d'être toujours le même et n'être que moi-même, être, je crois, quelque chose de l'ordre d'un imaginaire. Alors, derrière cette ipséité, il y a effectivement le fonctionnement du psychisme. Castoriadis disait, le psychisme, c'est l'ennemi de la dimension sociale, c'est l'ennemi du lien social. À partir du moment où on se pense soi-même, effectivement, on a tendance à considérer que la présence de l'autre dans notre pensée devient encombrante et devient gênante. Et je pense qu'il faut bien comprendre la fonction du psychisme. Qu'est-ce que c'est que le psychisme ? Je trouve que c'est, par rapport au neurologue, par exemple, on a un cerveau, mais c'est intéressant dans la langue de voir que on ne peut pas, à tout instant, remplacer le mot psychisme par le mot cerveau. Par exemple, quelqu'un qui a un esprit, ou le mot esprit. Je dis de quelqu'un qu'il a un esprit ouvert, tout le monde comprend. Si je vous dis qu'il a le cerveau ouvert, vous n'allez pas vraiment comprendre. Un trait d'esprit, si je vous dis un trait de cerveau, vous n'allez pas vraiment saisir. Et donc, est-ce qu'on peut supprimer l'esprit et considérer que tout est cérébral et que rien n'est dans l'esprit, c'est-à-dire dans le psychisme ? Les linguistes disent que quand on ne peut pas remplacer un mot par un autre, quand il y a deux mots équivalents, eh bien, c'est que ces deux mots témoignent d'une fonction différente et qu'il faut les garder dans la langue. Donc vous pouvez vous y prendre comme vous voulez, vous ne pourrez pas supprimer le mot esprit de la langue commune. Et ça qui veut dire qu'on dit quelque chose différent de ce qu'on dit quand on dit cerveau. Et là, il y a quelque chose d'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce psychisme, cet esprit qui n'existe pas dans le corps? Et là, je suis effectivement d'accord. Il n'existe pas dans le corps, il est probablement en partie localisé dans le cerveau, parce que quand on coupe le cerveau, les gens, ils manquent d'esprit. Mais quand ils ont un cerveau, ça ne leur suffit pas pour avoir un esprit. Donc, il y a quelque chose de supplémentaire. Alors, j'aime à dire que le psychisme, c'est cette instance. Alors, on ne peut pas dire une glande, on ne peut pas dire un organe, on va dire une instance. C'est cette instance qui nous garantit à tous notre illusion de continuité d'existence. Notre illusion de continuité d'existence. Qu'est-ce que c'est que ça, cette illusion de continuité d'existence ? C'est l'illusion qu'aujourd'hui, on était comme hier et que demain, on sera comme aujourd'hui. Tous là en ce moment, vous avez l'illusion que demain vous serez comme aujourd'hui et qu'aujourd'hui vous n'étiez pas très différent d'hier. Alors si vous raisonnez un peu, vous dites d'abord demain j'en sais rien, il peut y avoir des événements, je ne suis pas vraiment sûr. Et si vous raisonnez par rapport à un mois ou il y a 3 ans, vous dites oui j'ai eu des expériences, j'ai rencontré des choses, je ne suis peut-être pas tout à fait le même. Mais en même temps, psychiquement, vous avez le sentiment d'être le même. Eh bien, le psychisme, c'est ça qui nous donne cette illusion de continuité d'existence, sans laquelle on serait dans un état d'angoisse permanent, hein, c'est-à-dire on ne se reconnaîtrait plus soi-même. Donc c'est cette espèce d'instance de reconnaissance de soi-même qui nous donne ce sentiment de confort existentiel, parfois même d'un confort excessif, parce que cette illusion de continuité d'existence peut aller jusqu'au sentiment illusoire ou utopique d'invulnérabilité, de permanence, d'immortalité, etc. Je serai toujours... Et d'ailleurs, certains adolescents, on le verra, sont habités par ce sentiment d'invulnérabilité, de toute puissance, nous appelons ça, qui est, je dirais, une sorte de narcissisme triomphant en adéquation avec leur âge. Alors, bien évidemment, cet sentiment de continuité d'existence, cette illusion donnée par le psychisme, va rencontrer dans la vie des aléas et des moments difficiles. On va dire qu'il y a deux types de moments difficiles. Il y a les moments difficiles liés aux conditions conditions environnementales et les moments difficiles liés aux conditions développementales du sujet. Alors les conditions environnementales, eh bien, c'est toutes les conditions qui vont confronter le sujet à sa vulnérabilité et au danger de mort. Alors, c'est effectivement les accidents, les maladies graves, les événements dramatiques tels que des tremblements de terre, des tornades, par exemple, après des tornades comme celle de Xintia, il y a tout un tas de gens qui ont vécu une angoisse d'anéantissement et qui, après, durablement, quand ils se couchent, ne sont pas sûrs de se réveiller et de se relever. Et donc, effectivement, sont profondément atteints dans ce sentiment de continuité d'existence. Si chaque fois que vous fermez les yeux, vous avez l'angoisse qu'une tornade va surgir, ben, évidemment, vous avez du mal à vous endormir et ça va sérieusement altérer cette illusion, entre guillemets. Donc, tous ces événements-là peuvent entraîner, effectivement, des effondrements de ce sentiment et de cette dimension de protection. Et le deuxième élément qui perturbe ce sentiment de continuité d'existence, c'est ce que j'appelle les conditions développementales. Et dans les conditions développementales, c'est quand les gens changent peut-être de manière un peu plus accélérée. On pourra dire qu'il y a trois changements et qu'ils ont conscience de ça, qu'ils sont déjà construits. Il y a trois changements essentiels. Il y a la vieillesse avec effectivement les pertes d'autonomie et ce que ça représente, et la vulnérabilité de la vieillesse. Et ce n'est pas tout à fait par hasard s'il y a un certain nombre de personnes âgées vivent comme ça avec des traits anxieux majeurs qui effectivement sont en lien avec leur sentiment d'une certaine perte qui est compréhensible. Bon. Mais si on met ça de côté, les deux autres périodes qui sont des attaques de ce sentiment de continuité d'existence, des attaques développementales, c'est un, la grossesse et peut-être encore plus l'accouchement chez les femmes. La grossesse et l'accouchement qui effectivement entraînent dans le corps de la femme une transformation profonde, elle est habitée par un autre en elle. Et d'un seul coup, l'accouchement, c'est quand même une rupture relativement brutale. Et on le sait, les jeunes femmes qui ont des vulnérabilités identitaires, qui ont des moments, des difficultés d'organisation de la personnalité, peuvent traverser cette grossesse et surtout cet accouchement avec des manifestations très, très désorganisantes au plan justement de la continuité d'existence, parfois avec des épisodes délirants, etc. Ça, c'est le premier, donc on ne va pas parler de cela, mais on va parler du deuxième. Et le deuxième événement développemental, c'est évidemment la puberté et la transformation pubertaire. Un jeune engagé dans la puberté, qui commence sa puberté vers 12 ans, qui va la terminer vers 14-15 ans, j'aime à dire cela, chaque fois qu'il rentre dans la salle de bain, il ne rentre pas dans la salle de bain pour se laver, il rentre dans la salle de bain pour se reconnaître. C'est un travail quotidien de réappropriation de son corps et de ses changements éventuels. Et donc, ce travail, évidemment, va être source éventuellement d'anxiété si, d'un seul coup, il y a un sein qui pousse un peu plus qu'un autre. Par exemple, l'asymétrie dans la poussée des seins est une chose presque physiologique. Ben, ça peut être inquiétant si la longueur du zizi n'est pas suffisante. Ça, c'est en général les garçons, hein, évidemment. C'est jamais suffisant, etc., etc. Voilà. Donc, ça va être effectivement des moments d'inquiétude devant cette transformation pubertaire avec parfois des questionnements. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Alors, ça peut aller depuis qui suis-je en termes que vais-je devenir, hein, qui est donc le flottement identitaire tourné vers l'avenir, mais peut-être plus encore, je ne me reconnais plus et qu'est-ce que je suis en train de devenir par rapport à celui que j'étais avant, hein. Et ça, c'est la rupture identitaire telle qu'on a décrit parfois dans des épisodes plus psychotiques et inquiétants. Donc, l'adolescence, effectivement, est une période de construction de l'identité et de construction identitaire. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut bien comprendre que notre identité, à tous, là, procède toujours de deux facettes. Deux facettes qui se conjuguent obligatoirement l'une et l'autre, mais peut-être dont l'importance et dont la valeur est fonction des conditions de l'environnement social. Alors, ces deux facettes, c'est ce que j'appellerais la facette mimétique, être comme l'autre. Et l'autre facette, c'est la facette différenciatrice, être différent de l'autre. Toute construction de l'identité, c'est un mix de être comme l'autre, être différent de l'autre. Toujours. À tout instant et à toute période. Simplement, selon les périodes, il y en a une qui est plus valorisée que l'autre. On le reverra brièvement. Alors, la première facette que j'aime à appeler mimétique. C'est quoi, cette facette mimétique ? Eh bien, c'est le sentiment d'être comme l'autre, le besoin d'être comme l'autre, et c'est ce qu'on appellera l'appartenance groupale, l'appartenance familiale. Hein, c'est tout ce qu'on appelle les processus d'affiliation. Je me sens ressembler à mes ancêtres, Alors, à la fois une ressemblance physique, une ressemblance morale et une ressemblance intellectuelle. J'ai les mêmes croyances, je partage la même religion, je partage les mêmes valeurs, etc. etc. Ça, c'est ce que les processus d'affiliation qui sont bien évidemment du côté, je dirais, de la sécurité de l'image de soi. Et on va appeler ça comme ça, d'une certaine dimension narcissique. Je me retrouve dans l'autre. Je me retrouve dans l'autre et il n'y a pas trop... Voilà, c'est l'autre dans, à travers l'autre, c'est ma propre image que je vois. Il y a là quelque chose d'essentiel. L'autre est le mirage de moi-même. L'image est le mirage de moi-même. Alors, c'est pas, on le sait maintenant dans les relations, ce qu'on appelle les relations précoces mère-bébé, les interactions précoces mère-bébé. Il y a déjà très longtemps, Winnicott avait dit que le visage de la mère est le premier miroir de l'enfant. Et on sait aujourd'hui que grâce au système que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on appelle les neurones miroirs, eh bien, quand, par exemple, un bébé sourit, immédiatement en face de lui, un bébé de 15 jours, 3 semaines, un bébé qui ébauche une ébauche de sourire, eh bien, aussitôt, l'adulte qui est en face, sa mère, mais son père aussi, la nourrice, l'adulte qui est en face, immédiatement, devant cette ébauche de sourire, va se mettre à faire un très gros sourire, associant « Oh, tu souris, tu es content » et racontant toute une histoire. Et devant ce sourire éclatant sur le visage de l'adulte, à ce moment-là, le sourire du bébé, qui était une ébauche de sourire, souvent s'accentue et devient un sourire plus important et plus éclatant. Et là, évidemment, le parent a vraiment le sentiment que le bébé lui sourit à lui. C'est-à-dire, c'est plus simplement qu'il sourit aux anges, c'est qu'il lui sourit à lui. Alors, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de magie. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire, effectivement, quand quelqu'un fait quelque chose, dans mon cerveau à moi, s'activent les mêmes zones quand je regarde cette personne faire ce qu'il est en train de faire. Et bien moi, chez l'adulte normal, et quand c'est un adulte en face de moi, par exemple, si madame qui est en face de moi se met à faire une grimace, spontanément, je ne vais pas faire une grimace. Il y a une inhibition de l'imitation avec des adultes. Mais chose étonnante, avec des bébés, cette imitation, cette inhibition est levée. Quand on est avec un bébé, on n'a plus cette inhibition et on se met à avoir ces imitations. C'est une expérience tout à fait banale. Eh bien, grâce à ça, le bébé, au fond, quand lui sourit, il ne sait pas qu'il sourit. Mais quand son cerveau voit un éclatant sourire maternel, qui lui dit en plus qu'il sourit, lui se met à sourire et moi j'y mets l'hypothèse que c'est grâce à ces imitations croisées que peu à peu, le bébé prend conscience de son propre sourire et apprend que quand on est content, on sourit. Quand on est triste, on fronce les sourcils, etc. C'est-à-dire qu'il apprend ce qu'on peut appeler la grammaire des émotions. La grammaire des émotions, c'est-à-dire le sens des émotions. Donc vous voyez que c'est tout à fait dans un processus d'imitation sociale, ce qu'on appelle des imitations croisées et renforcées et déformées. C'est dans ce processus d'imitation sociale. Et ça, c'est évidemment des processus d'appartenance narcissique. On voit bien là qu'on est au bord d'une sorte de reflet. L'autre est le reflet de nous-mêmes, etc. Donc, cet élément-là est important et il assure également quelque chose d'autre que j'ai évoqué là à travers cette relation mère-bébé et dont on parle sans arrêt, la transmission. C'est grâce à cette dimension d'appartenance à un groupe, etc., qu'on va transmettre. Là, par exemple, l'adulte transmet le langage des émotions en faisant ça à ce bébé. Il n'y a aucune raison qu'un bébé sache par l'opération du Saint-Esprit qu'on est heureux quand on sourit. Mais je pense effectivement que socialement, c'est quelque chose qui est transféré comme ça, progressivement, dans la connaissance d'un bébé. Donc, l'autre est le miroir de soi-même. Et grâce à cela, on construit cette facette mimétique de la construction identitaire. Mais la deuxième facette, elle est extrêmement importante. Parce que, et on le voit bien dans le développement de l'enfant, après la période justement où l'enfant se nourrit des interactions précoces, où il est branché en permanence sur les parents, arrive chez l'être humain quelque chose qui est peut-être spécifique des humains et qui n'existe pas chez les animaux, y compris les animaux sociaux et les groupes sociaux, parce que les animaux sociaux, il y en a, non seulement les insectes sociaux, mais même parmi les mammifères, les primates, etc. Il y a l'être humain, à partir de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ce dont il a envie soudain, c'est de plus faire comme papa ou maman, plus être dans l'imitation, et vous le savez tous, c'est de se mettre à être dans l'opposition. L'enfant dit non. Je vous signale que le nom est spécifique du langage humain. C'est une particularité, ça n'existe pas dans la nature, le nom. C'est totalement spécifique du langage humain. Et donc, effectivement, la dimension d'opposition est une dimension extrêmement importante de la construction de l'identité. À tel point, d'ailleurs, que aujourd'hui, la plupart des mamans, quand on leur parle de cette phase d'opposition, elles savent très bien que, finalement, c'est en disant non que l'enfant s'affirme. C'est un paradoxe. En disant non, l'enfant dit « je ne suis pas comme toi, je suis différent de toi ». Non, j'ai pas envie de mettre mon pyjama. Non, j'ai pas envie de manger ça. Non, je veux pas aller à l'école. Non, je veux pas avoir... Au début, il dit non à tout. Parce qu'il a tellement, il jubile tellement que c'est tellement drôle de dire non que, bon, bah, il l'utilise et il l'utilise avec abus. Ce qu'on n'a peut-être pas bien, toujours bien compris, c'est que ce non, il n'arrive pas comme ça non plus par magie. Pourquoi le non de l'enfant arrive à cet âge-là ? Pour une raison importante, c'est qu'à cet âge-là, après 16-18 mois, juste avant, qu'est-ce que fait l'enfant quand il a 13, 14, 15 mois, 16 mois ? Bah, il commence à marcher. Il commence à marcher et là, quand il marche, il se trouve qu'il y a un renversement complet dans la relation entre la main et l'objet. Jusqu'à ce qu'il ne marche pas, c'était l'objet qui venait dans la main du bébé, l'objet que le parent amenait dans la main du bébé. Et donc, il n'y avait aucune raison pour les parents de dire non, puisqu'ils lui donnaient ce qu'ils voulaient. Et donc, tous les objets venant dans la main du bébé étaient des objets qui lui étaient offerts de manière merveilleuse. D'ailleurs, même, c'était une période magique, puisque parfois, il suffisait que le bébé regarde quelque chose pour qu'on lui dise « tu veux ta tétine ?» Crac, et on lui donnait la tétine. Donc, rien qu'avec le regard, il avait, voilà. Alors, évidemment, s'il regardait le vase en cristal, on faisait celui qu'il n'avait pas vu, on lui disait « tu veux ton nana ?» Et puis, on lui disait « nana, nana ». Il était content avec son nana, etc. Mais à partir du moment où l'enfant marche, ah, c'est la main qui va à l'objet, c'est plus l'objet qui vient dans la main. Et là, que font les parents ? N'en touche pas ça, non, bah, non, attention, non, fais pas ci, non, fais pas ça, non, pas là, non, pas li. Et là, le nom d'un seul coup des parents, le nom envahit la bouche des parents, là où jusqu'à présent, les parents offraient à l'enfant les objets du monde. Et donc, l'enfant est un peu sidéré, il ne comprend pas bien au début. Du tout, surtout que, d'autant moins que la plupart des parents aujourd'hui installent les objets très en hauteur de façon à ce qu'ils n'aient pas trop d'occasion de dire non, parce que les parents n'aiment pas dire non à leur enfant. Mais malgré tout, ils sont quand même bien obligés de lui dire. Et très vite, l'enfant s'identifie au non parental et décide lui aussi de dire non. Et il découvre avec jubilation qu'il peut aussi dire non à ses parents. Et qu'il va construire désormais une partie de son identité en s'opposant. Et ça, c'est la partie d'opposition qui est fondamentale, qui effectivement ouvre dans ce qu'on pourrait dire les prémices de l'émancipation. Et d'un autre élément, avec l'émancipation, ça va être évidemment quelque chose de l'ordre de la compétition. Où l'autre devient le rival, celui qui vous empêche de faire ce que ou l'empêcheur, et surtout en disant non, non, je ne pense pas comme toi, non, je ne ferai pas comme toi, non, moi j'ai envie de faire comme je veux faire. C'est quoi ça? C'est l'ouverture à l'originalité, la créativité, la nouveauté. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, je ne refais pas ce que mes ancêtres ont fait. Moi, je veux faire différent. Voilà, je veux m'ouvrir différemment. Donc la construction identitaire est toujours un mixte de ces deux ingrédients. Être comme l'autre, être différent de l'autre. Et on pourrait dire comme ça que être comme l'autre, c'est ce qui se construit vraiment dans la petite enfance. Et qui va se renforcer dans l'enfance. Et c'est l'âge où les enfants, ils disent « ma maman, elle est merveilleuse, mon papa, elle est merveilleux ». Ils sont contents de s'appuyer sur les parents. Et au fond, quand on leur dit qu'ils ressemblent à papa, maman, quand ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu ressembles à ta maman, ils sont contents. Essayez de faire ça avec un gamin de 14 ans, vous verrez ce que ça donne. Donc c'est peut-être moins... Et effectivement, être différent, c'est ce qui s'ébauche avec la phase d'opposition. Mais qui va effectivement donc s'ébaucher, mais qui va se révéler pleinement à l'adolescence. Et c'est effectivement la découverte de l'adolescence et l'affirmation de l'adolescence. Au fond, si l'enfant se contente de dire non et teste sa différence, l'adolescent va s'affirmer dans la « je ne suis pas celui que vous croyez, je suis différent, voilà, je suis ». Au fond, l'enfant il dit non à ses parents, voilà, « moi je n'ai pas envie de faire comme toi, je veux faire un papa, j'ai pas... » voilà. Mais il ne dit pas « je suis différent ». l'enfant continue à dire « je suis avec comme papa, comme maman ». Alors que l'adolescent, il a intériorisé ce nom et lui, il dit « je suis dans différent, je ne suis pas comme vous ». Alors, vous avez compris assez facilement, à travers tout ce que j'ai dit, qu'au plan social, évidemment, il y a eu une transformation radicale. Et on pourrait dire que depuis la nuit des temps, dans le lien social, être comme, le lien mimétique, a toujours été privilégié. Hein, c'était ce qui rendait le lien social cohérent. C'était le lien de la famille, le lien du clan, le lien de la tribu. Hein. C'était effectivement ce qui permettait de se sentir protégé, de se sentir abrité, etc. Et à ce niveau-là, effectivement, être différent, c'était prendre un danger majeur. Être différent et être trop différent, c'était quoi? C'était l'exclusion. Le bannissement et l'exclusion. Pendant longtemps, si on était trop différent, on était banni. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les croyances religieuses, mais également sur, par exemple, les mariages. Il fallait se marier avec qui on vous avait dit, etc. Parce que c'était ceux de votre clan, ceux qui devaient être les alliés, etc. Et l'individu, ben, il fallait qu'il se moule dans cette similitude. Alors, il pouvait avoir quelques petites originalités, mais c'était essentiellement dans cette similitude. Et aujourd'hui, depuis, on va dire, depuis 2-3 siècles, mais c'est clairement affirmé depuis un petit siècle, et ça devient, je dirais, envahissant et concernant tous les individus depuis la fin du XXe siècle, hein, depuis les années 70-80. Aujourd'hui, on est dans un paradoxe social, puisqu'effectivement, l'injonction de chacun, c'est d'être différent et d'être singulier. Hein. Or, effectivement... Comment est-ce qu'on peut être tous différents les uns des autres? Voilà, c'est ça qui est valable. Construis ton projet de vie, soit affirme-toi toi-même, existe, allez, sois toi-même, soit montre-moi ce que tu sais faire de différent des autres, etc. etc. Et évidemment, les adolescents sont pris dans cette injonction qui leur pose problème. Parce que quand, effectivement, ces adolescents ont une créativité et ont un certain génie, à travers, par exemple, le dessin, à travers la musique, à travers une compétition sportive, à travers une manière de s'exprimer un certain bagout. Voilà. Ils arrivent effectivement à travers de la danse, du rap, à travers tous ces trucs qui envahissent les tags, qui envahissent les villes. Eh bien, c'est une tentative effectivement frénétique, vous voyez tous ces tags, de mettre son prénom, une tentative frénétique d'affirmation de soi et de sa différence, faire un tag différent du copain. Alors, effectivement, on en arrive à cette compétition permanente et à ce que Freud avait déjà appelé le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun cherche à s'affirmer un petit peu différent des autres et dans une compétition différentielle. Et je crois que les adolescents en sont à la fois le moteur et la victime. Dans cette compétition différentielle, un élément essentiel, c'est qu'on se différencie beaucoup plus facilement par les objets concrets que par les idées. Avoir des idées différentes des autres, c'est quand même pas toujours évident. Mais en revanche, avoir les Nike de dernière génération, avoir le portable de dernière génération, avoir la voiture, le modèle qui vient de sortir, avoir les trucs comme ça, effectivement, eh bien, c'est là qu'on peut croire qu'on va se différencier. Et d'une certaine manière... Dans notre société actuelle, la société, on va dire la société capitaliste, vend à chacun l'illusion de sa différence grâce aux objets qu'il peut consommer, qui est en même temps une compétition de consommation. Donc chacun, et bien sûr, très vite, dès qu'on a acheté l'objet de dernière génération, tout le monde finit par l'avoir. Donc évidemment, pour être dans cette compétition. Et donc après, c'est... Alors j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la mode vestimentaire, sur ces objets dont j'ai parlé, et ce besoin absolument... frénétique de différence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons renoncé à ce lien d'appartenance pour nous affirmer dans une sorte d'individualisme forcené. Mais un individualisme dont je vous invite à réfléchir au paradoxe suivant. Ici, il est possible qu'il y ait des musulmans, des bouddhistes, des protestants, des juifs, des chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, je crois que je l'ai dit, etc. On est dans un espace républicain et laïque où théoriquement nos croyances ne concernent que nous quand on est dans nos espaces privés. Ici, on est dans un espace public et chacun est libre d'avoir dans son espace privé la religion qu'il veut, mais il n'y a pas de religion ici. Religion, je vous rappelle, ça veut dire religarer ce qui nous relie. Ce qui nous relie. La religion, c'est ce qui nous relie. La croyance commune qui nous donne ce sentiment d'appartenance. Alors, sur quoi se fonde, nous, notre sentiment d'appartenance ? C'est une des difficultés de la société. Notre sentiment d'appartenance se fonde sur une croyance que nous, notre religion, nous avons tous ici une religion, qui est que nous croyons, c'est quelque chose que nous croyons tous, et auquel nous adhérons, et qui est quelque chose auquel nous tenons, comme étant la marque de notre appartenance démocratique. Cette religion, c'est la suivante, mais c'est une croyance, je n'ai pas dit que c'était une vérité. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Voilà la religion que tous ici, nous avons. Trois exemples de cette religion, extrêmement simples. Le premier concerne la maladie. Vous êtes malade. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Il y a 40 ans ou 50 ans, le médecin, le savant, le docteur, il fronçait les sourcils, il vous tapait « Oh, 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 bon, ça ira mieux demain », et puis il se taisait. Puis vous dites, « Qu'est-ce que j'ai, docteur ? Oh, 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 c'est pas grave !» Et puis vous tapez sur l'épaule avec une espèce de condescendance. Et le docteur, au fond, il avait le droit de savoir des choses sur votre santé que vous étiez en demeure d'ignorer, parce qu'il était censé être au-dessus de vous. Aujourd'hui, tous ici, quand nous allons chez le médecin, nous trouvons inacceptable que ce médecin ait sur nous-mêmes, sur notre santé, une connaissance qu'il ne nous donne pas. Voilà, c'est inacceptable. Il n'y a aucune raison que ce médecin, parce qu'il a fait des études de médecine, il ait sur nous une connaissance qui nous échappe. Et son boulot, c'est de nous transmettre cette connaissance. Donc on exige aujourd'hui que le médecin nous dise ce qu'il sait de nous et de notre santé. Voilà. Parce qu'il n'est plus au-dessus de nous. Voilà. Ça, c'est deuxième exemple. Vous le savez bien, le mariage arrangé, c'est le scandale des démocraties contemporaines. On ne peut plus obliger un garçon ou une fille à se marier parce que c'est la même tribu, etc., ou la même religion. Et chacun est libre de ses liens. Voilà. Et donc, effectivement, le lien social ne s'impose plus à l'individu. Mais vous voyez en ce moment apparaître, c'est en train d'arriver, et à mon avis, d'ici 5 ans, 10 ans maximum, il y aura une jurisprudence. Voilà, c'est le risque de parler sans note. Il y aura une jurisprudence qui sera là. C'est quoi ça ? C'est le viol conjugal. Le viol conjugal, c'est très intéressant, l'arrivée du viol conjugal. C'est qu'aujourd'hui, puisque ça concerne quand même plus souvent une femme qu'un homme, une femme, le lien du mariage ne s'impose plus à son corps. Si elle a envie d'avoir des relations sexuelles, elle est libre. Et même le lien du mariage ne l'assujettit pas au service conjugal. Voilà. Et donc, on est en train de découvrir que le lien du mariage ne l'emporte pas sur la possession du corps de la femme. Voilà. On peut considérer que c'est une grande liberté, une grande nouveauté. Une génération, c'est en train d'apparaître. Peut-être que dans 50 ans, ça paraîtra évident à tout le monde. Aujourd'hui encore, parmi les femmes les plus âgées, il y en a qui considèrent que quand on est marié, on doit passer à la casserole si son mec en a envie, même si on n'en a pas très envie. Voilà. Ça fait partie aujourd'hui encore d'un certain nombre de mœurs, peut-être moins chez les plus jeunes. Donc voilà, typique, mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Et nous élevons nos enfants avec cette idéologie-là. Alors effectivement, on voit bien que là, on est au cœur d'un paradoxe identitaire. Or, l'identité, fondamentalement, elle se constitue toujours sur ces deux piliers. Être comme autrui, être différent d'eux. Et si l'identité ne se construit que sur un pilier, c'est une identité hémiplégique. On ne peut pas vivre en décrétant qu'on est toujours différent. Il y a bien un jour où il faut effectivement accepter de s'identifier. Alors, ce jeu sur le mimétisme et la différence, les adolescents le jouent au cours de l'adolescence de manière très, très classique et très traditionnelle. La première des différences qu'ils veulent mettre en place, c'est la différence générationnelle. Je ne suis pas comme mes parents. L'arrivée de la puberté signifie que désormais, j'ai envie de faire des choses avec mes copains que j'ai plus envie de faire avec mes parents. Avant, j'aimais bien aller au cinéma avec eux, j'aimais bien aller au resto, j'aimais bien aller me balader en ville avec eux. Mais maintenant, il faut qu'ils soient 15 mètres devant moi ou 15 mètres derrière moi, parce que j'ai la honte si je sors avec mes parents et puis bouffer au restaurant avec mes vieux, ça me casse les pieds. Donc je veux être différent. Donc effectivement, l'estamping, la marque de l'entrée dans l'adolescence, c'est ce besoin de différenciation de la génération d'avant. Mais en même temps, et ça c'est intéressant, en même temps, je cherche à montrer que je ne suis pas de la génération de mes parents et je vais accéder aux attributs de ma génération. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets à faire comme tous les jeunes de mon âge. C'est-à-dire, je fais... Alors, en même temps, l'adolescent dit « Je veux être différent, je veux être original, je ne veux pas être comme vous. » Et les parents disent « Mais tu fais comme tous tes copains ou toutes tes copines. T'arrêtes pas de faire... » Mais ça, c'est le paradoxe adolescent. C'est-à-dire, en même temps que je me différencie de la génération d'avant, j'ai besoin de construire, je dirais, mon narcissisme social, c'est-à-dire mon narcissisme culturel, en étant comme tous mes copains. Et ça, c'est typiquement les collégiens, la classe d'âge des collégiens, dont on sait qu'au collège, pas sixième, parce que c'est encore des enfants en sixième, mais à partir les filles, à partir de la fin de la sixième, début de la cinquième, les garçons dans le courant de la quatrième, eh bien, effectivement, à ce moment-là, les jeunes, entre eux, sont capables de faire régner la terreur vers celui qui n'est pas tout à fait comme eux. Hein, d'où les problèmes de harcèlement au collège. Dès qu'il y en a un qui est un peu différent des autres, eh bien, ils sont d'une violence, d'une agressivité, d'un mépris, d'une moquerie absolument insupportable. Et bien entendu, à ce niveau-là, la différenciation sexuelle est extrêmement importante. C'est-à-dire les mâles doivent être avec les mâles, les femelles avec les femelles. Les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Et s'il y a un garçon qui est un peu avec des traits féminins, ça a vite fait de devenir, ce que vous imaginez. Et si vous avez une fille un peu trop masculine, elle a vite fait d'être rejetée par ses copines. Et voilà. Donc effectivement, avec l'adolescence, si chaque jeune collégien veut rester dans son groupe d'affiliation, en particulier d'affiliation en termes d'appartenance de genre masculin, genre féminin, qui n'a rien à voir avec le sexe, hein, genre masculin, genre féminin, mais effectivement, c'est mieux quand c'est le même sexe. Donc s'il veut trouver son affiliation dans une appartenance de genre, il a intérêt à faire garçon comme les garçons et filles comme les filles, au point même d'en rajouter parfois. Et donc, effectivement, à cet âge-là, la différence est vite perçue comme objet de moquerie, de persécution et de harcèlement. Hein ? Et la plupart des jeunes harcelés sont des jeunes qui ont justement une petite différence. Soit c'est des jeunes très intello parmi une bande de loubards un peu bon à rien, soit c'est des jeunes avec des garçons par exemple avec des traits féminins, soit c'est par exemple au collège, un collégien en quatrième qui croit ce que les profs disent, c'est un bouffon, parce qu'en quatrième on doit dire les profs disent des conneries, voilà, même si à la maison on a le droit de dire les profs il est intéressant, mais on doit jamais dire à ce prof je l'aime bien, il est intéressant, il est drôlement intéressant, non. Il faut dire comme tout, ah, ces profs sont nuls, ils ne voient rien, etc. Si vous défendez le prof, vous devenez un bouffon et vous vous mettez à dos les autres adolescents et vous risquez de prendre des coups. Donc ceux qui sont intelligents comprennent vite ça, ils estompent leur différence, ils la gardent pour eux. Ceux qui sont un peu, comme disent les Canadiens, un peu niaiseux, ils comprennent pas et ceux-là, ils se font tirer dessus, hein, ils se font très vite harceler. Donc, ce qui me paraît important de se comprendre, c'est que le début d'adolescence est marqué par cet besoin frénétique d'identité mimétique. Et il faut bien voir pourquoi il y a ce besoin frénétique. Ce besoin frénétique est à la hauteur, justement, de ce que je disais tout à l'heure, à la hauteur de la menace identitaire pubertaire. On pourrait faire une corrélation. Plus le besoin mimétique est intense, plus généralement, ça témoigne de fragilité identitaire sous-jacente ou de fragilité contextuelle sous-jacente. Plus on est fragile, plus on a besoin de ce mimétisme. Alors on peut être fragile pour des raisons ethniques, pour des raisons d'âge, pour des raisons de santé, enfin pour des raisons sociales, pour des raisons etc. Mais plus il y a cette vulnérabilité, plus ce besoin est grand et plus la petite différence peut être vécue comme quelque chose de dangereux et qui va susciter le rejet. Avec l'adolescence et en grandissant, et c'est particulièrement vrai avec les années lycée, ça va être le contraire. Et là, au contraire, avec les grands adolescents et au lycée, ce qui est valorisé, c'est pas de ne pas être comme les autres. C'est d'affirmer son style, d'affirmer son look vestimentaire. Alors que tous les adolescents au collège sont tous identiques, à partir du lycée, on va créer son look. Avec un petit détail, un petit machin, une couleur particulière, une coiffure particulière, etc. Et ça occupe un certain nombre d'adolescents, garçons comme filles maintenant d'ailleurs. Il y a de plus en plus de filles, garçons qui sont à la recherche de look. Ce n'est plus du tout quelque chose qui est spécifique des garçons, des filles, excusez-moi. Ça devient également recherche. Et effectivement, l'objectif, c'est de ne pas être tout à fait comme son copain ou sa copine et de chercher dans la différence. Et à travers cela, c'est évidemment ce que j'ai évoqué, toute la créativité des adolescents et toute l'inventivité des adolescents qui se déploient souvent dans les vers comme ça, 15-16 ans, 16-17 ans. Et parfois même, quand ils ont été jetés du lycée ou de la scolarité parce qu'ils étaient en échec scolaire, eh bien, ils vont cultiver leur créativité dans la rue à travers des activités telles que le rap, telles que la musique, telles que d'autres. Et ils vont tenter de trouver leur style. Voilà. Et donc, il y a là quelque chose qui est fondamentalement différent du collégien, où là, la différence est attrayante et source de séduction, d'une certaine manière, d'aller vers la différence. Et alors là, vous avez un petit peu compris, effectivement, ce jeu autour de la construction identitaire chez les adolescents. Hein, vous voyez bien que plus l'adolescent va être, entre guillemets, riche dans ce qu'il a pu avoir dans sa petite enfance, dans son équilibre affectif, riche dans les expériences intellectuelles qu'il pourra avoir, riche dans la qualité sociale de son environnement, plus évidemment il va accepter cette différenciation et plus il va être intéressé d'aller au-devant des différences, au-devant de l'autre étranger, de l'autre différent de moi, parce qu'il va voir dans l'autre différent de moi une source de richesse potentielle. Au fond, sa différence peut m'enrichir. Je peux apprendre d'autres choses à partir de lui. Sa différence peut m'enrichir. Mais elle peut m'enrichir parce que j'ai déjà des choses en moi. Et plus inversement, l'adolescent, donc plus il est jeune, plus il est collégien, mais plus il est démuni sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, avec des carences, etc., plus cette différence risque d'être persécutrice. Qu'est-ce qu'il a d'autre, qu'est-ce qu'il me veut, etc., etc. Et donc, effectivement, on a vite basculé dans des vécus qui peuvent être de rejet, voire d'agressivité. Alors, je crois qu'effectivement, cet attrait différent se trouve très bien à travers la bande, le groupe ou les amis. Hein. Plus vous êtes dans des processus de bande, en particulier dans les banlieues déglinguées, plus effectivement le mimétisme de la bande est grand et plus effectivement il y a la nécessité d'être dans des affiliations, des groupes d'appartenance, enfin des appartenances avec la vêture, les tatouages, le langage, etc., qui vous marquent dans cette appartenance. Et moins vous pouvez vous différencier. Et si l'adolescent ne veut pas faire ce que les copains font, le risque, c'est l'exclusion de la bande. Et l'exclusion de la bande, c'est immédiatement la vulnérabilité, la fragilité, l'agressivité. Et cela, c'est très différent du groupe de copains ou du groupe d'amis, où là, effectivement, dans le groupe de copains et le groupe d'amis, eh bien, on peut avoir d'abord ce qu'on ne peut pas avoir dans la bande, on peut avoir des relations différenciées entre deux copains, deux amis. Si on est un groupe de 6 ou 8 amis, on peut se voir de temps en temps tous les deux. Alors que la bande, on doit toujours être ensemble. Dès qu'il y en a deux qui sont, c'est deux qui complotent contre la bande. On ne peut pas se permettre d'être différent, il faut être tous ensemble. Donc les amis, ça peut être des relations différenciées où justement interviennent cette recherche de différence. Donc l'implication pour la clinique, eh bien, les adolescents qui vont bien d'une manière générale, ils ont plutôt des engagements altruistes, ils aiment la différence et une dimension de générosité vers l'autre. Et je dirais que cet attrait pour la différence est une marque, je dirais, de bien-être. Et ceux qui vont mal, la différence suscite envie et suscite souvent la haine avec une violence extrêmement importante. Et je ne peux pas m'empêcher de conclure sur cette remarque qui peut arriver et qui peut aboutir à des drames. Il m'a mal regardé. Il m'a mal regardé. Qu'est-ce que c'est ce « il m'a mal regardé » hein ? Alors, je pense que c'est intéressant parce que le regard chez les adolescents est évidemment le marqueur de leur difficulté concernant leur propre image. À la fois, si on ne les regarde pas, ils ont l'impression qu'on les ignore, et quand on les regarde trop, ils ont l'impression qu'on les dévisage et qu'on les scrute. Alors, ils sont constamment pris dans ce besoin de se faire voir et cette inquiétude qu'on les regarde trop. Hein, donc, voilà. Alors, certains réussissent. Une des manières fréquentes pour ceux qui ne vont pas bien et qui sont justement en manque de regard, en manque de considération, c'est d'attirer le regard des autres. Vous les voyez sur la gare de Poitiers, dans l'entrée, vous les voyez parfois sur la place, etc., qui zonent et qui traînent. Ils attirent votre regard, alors c'est parfois des adolescents, parfois des jeunes adultes, ils attirent votre regard grâce à des tatouages partout, grâce à des habits guerriers, grâce à des piercings et des choses comme ça. Et donc, vous avez tendance à les regarder. Mais en même temps, vous le savez bien, si jamais vous croisez le regard, vous vous faites invectiver. Et ce qu'il faut faire, c'est effectivement juste regarder leurs piercings ou leurs habits et puis vite détourner le regard parce qu'effectivement, aller au-delà, ça devient dangereux. Alors, au fond, ils réalisent un bon compromis. Ils attirent votre regard en étant dans un déguisement qui fait qu'évidemment, on ne peut pas ne pas les voir. Et en même temps, ce déguisement vous arrête et on ne va jamais au-delà. Alors, qu'est-ce que c'est ce « il m'a mal regardé » ? « Il m'a mal regardé », c'est effectivement un problème d'éducation du regard dans l'espace social. Nous avons besoin du regard de considération et nous avons besoin d'être regardés par nos proches et nous avons besoin de regarder nos proches. Nous sommes ainsi des animaux qui avons transformé la vision, qui est fondamentalement la vision, un organe d'attaque ou de fuite. Ce n'est pas un organe de communication chez les animaux, c'est un organe d'attaque ou de fuite. Nous avons transformé cette vision en un organe de communication. Madame, là, en face de moi, là, me regarde avec des grands yeux, et elle m'écoute, et elle se dit, qu'est-ce qu'il veut dire, là, monsieur Marcelli ? Moi, je la regarde, et quand on se regarde comme ça l'un l'autre, on essaye de comprendre réciproquement ce qu'on veut se dire, et on n'est pas en train de s'attaquer. On n'a pas le sentiment de danger. On ne se sent pas en danger. Donc, quand on est dans un espace connu, ou avec des situations sociales connues, par exemple, quelqu'un qui est assis, qui m'écoute, moi qui parle, et le regard partagé est un regard de communication humaine, et je dirais un regard de reconnaissance. Et c'est tout le regard qu'on a avec nos proches. Vous le savez, comme moi, quand dans un couple, il y en a une qui dit ou un qui dit « il ne me regarde même plus », en général, le couple, ce n'est pas terrible. Hein, ça commence à aller mal. Donc, on a besoin du regard de l'autre pour se sentir considéré. Ça, c'est la considération. Et aujourd'hui, on pourrait dire que les petits-enfants, comme on ne leur donne plus l'injonction « baisse les yeux », « arrête de me regarder comme ça, baisse les yeux hein, », pour les plus anciens, vous savez que dès que vous regardiez un adulte dans les yeux, vous étiez insolent, hein, alors qu'aujourd'hui, les petits-enfants de 2 ans, 3 ans, ils vous regardent dans la rue comme ça, ils posent leurs yeux, des grands yeux étonnés ou intéressés comme ça, ils sont... Voilà. Donc, effectivement, quand les enfants regardent dans la rue des étrangers, on apprend aux enfants, normalement, on leur dit, on ne regarde pas les étrangers comme ça, surtout si c'est quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant ou qui a un pansement ou quelque chose comme ça. Et le parent lui dit, on fixe pas les yeux comme ça, on détourne les yeux. Donc, quand on est dans l'espace social ouvert avec des étrangers, on ne retrouve pas le regard prédateur des carnassiers, mais on apprend à détourner les yeux. Parce que poser de manière insistante ses yeux sur quelqu'un, c'est un peu le dévisager et le déconstruire. Alors, qu'est-ce que c'est, ce « il m'a mal regardé » ? « Il m'a mal regardé », c'est dans l'espace des banlieues. Si deux mâles se regardent, surtout deux mâles, ou un mâle et une fille qui n'est pas de la tribu ou qui n'est pas du connu, etc., se regardent trop. Si une fille et un jeune mâle se regardent trop, c'est l'étincelle de la sexualité qui arrive et il y en a un qui est une salope et l'autre qui est un vaurien et ça mérite une attaque s'il n'a pas le droit de regarder cette fille. Donc dans l'espace social, et plus l'espace est balisé par le conservatisme social, plus les filles doivent avancer les yeux fermés, ou les yeux pas fermés, les yeux baissés plutôt. Voilà, parce que dans tous les espaces du monde, théoriquement, les garçons peuvent regarder ce qu'ils veulent et les filles doivent baisser les yeux. Hein, voilà, et il y a encore, par exemple, aux États-Unis, ils ont failli légiférer sur le harcèlement visuel, le harcèlement visuel, harassment, visual harassment, harcèlement visuel. Ils y ont renoncé parce que faire la preuve du harcèlement visuel, ce n'est pas une mince affaire. Ils ont quand même renoncé, mais ça vous montre bien la difficulté sociale. Et donc, on apprend théoriquement, quand on est dans l'espace social, à détourner les yeux. On peut se regarder 2 secondes, 3 secondes maximum. Et ensuite, il est courtois et poli de détourner les yeux quand on ne se connaît pas. Parce que s'engager les yeux dans les yeux, c'est soit quand on se connaît et qu'on est des proches, soit quand on est amoureux. Ou quand on a des intentions sexuelles. Donc, évidemment, alors effectivement, dans l'espace social, un certain nombre de mâles malotrus, mal embouchés, s'amusent à dévisager les filles des yeux pour voir si elles vont baisser les yeux ou pas. Et il commence à y avoir des filles qui ne supportent pas l'idée de devoir tout le temps baisser les yeux et qui rendent aux garçons des regards un peu provocateurs. Et ça arrive que les garçons finissent par détourner les yeux. Peut-être que dans une vingtaine d'années ou dans 30 ans d'années, ça se sera calmé, on sera dans un autre état d'esprit. Mais dans une banlieue entre deux jeunes qui appartiennent à des milieux qui sont à la fois très proches l'un de l'autre, il y a juste une rue qui les sépare, mais au plan social, il y a un côté favorisé de la rue et un côté défavorisé de la rue. Poser trop durablement ses yeux sur l'autre et ne pas détourner assez vite le regard est immédiatement perçu par l'un d'eux comme un regard de prédateur sur sa proie. Et immédiatement, il m'a mal regardé, c'est-à-dire il m'a attaqué de son regard. Et effectivement, ça peut suffire à déclencher des bagarres. Tous les éducateurs de rue le savent. Et ça, c'est quoi? C'est effectivement le narcissisme à fleur de peau de jeunes qui n'ont pas été suffisamment considérés. Le manque de considération fait du regard un instrument dangereux. Alors ce manque de considération, il peut être familial. Ils ont été carencés, maltraités, abusés, etc. Il peut être familial, il peut être social, il peut être individuel, je veux dire maltraité, il peut être familial, la famille est stigmatisée, famille carence dont on se moque, père qu'on humilie, etc. Et il peut être culturel, groupe ethnique défavorisé, racisme, etc. Et évidemment, quand un jeune vit cette triple stigmatisation individuelle, enfance chaotique, etc., stigmatisation familiale, milieu familial défavorisé, moqué, etc., stigmatisation ethnique, groupe ethnique défavorisé ou vécu de manière inférieure dans la société, évidemment qu'à ce moment-là, le moindre regard sur ce jeune est perçu comme une agression à son égard. Et si on ne détourne pas très vite le regard, immédiatement, il a le sentiment d'être mal regardé parce qu'il n'a pas eu un regard de considération. Et effectivement, ça peut déclencher des bagarres, parfois même des meurtres. Hein. Là, vous savez très bien à Grenoble qu'est-ce qui s'est passé. Ces deux jeunes qui avaient 14-15 ans, hein, qui ont commencé à se disputer parce qu'il y en a un qui avait mal regardé l'autre. L'un, c'était celui de la banlieue défavorisée qui avait été regardé un peu trop durablement par celui de la banlieue du coin favorisé. Probable. Alors, est-ce qu'il s'était moqué? Est-ce qu'il y avait entre ces deux jeunes? On n'en sait rien. Toujours est-il que le jeune du coin défavorisé avait une bombe lacrymogène, peut-être pour se défendre, et a lâché un pchit de bombe lacrymogène, enfin, c'est pas drôle, parce que dans le nez de l'autre. Et l'autre, celui qui avait reçu la bombe lacrymogène, qui était du milieu favorisé, est allé se plaindre à son grand frère. Et là, donc, vous voyez, après les jeunes coqs qui s'affrontent, il y a eu malheureusement les histoires des grands frères. Donc le grand frère, qui avait 23, 24 ans, fils de médecin, plutôt ayant fait des études de droit, je crois, enfin, plutôt bien inséré, etc., va voir le jeune garçon qui avait sorti la bombe lacrymogène. Et là, ce jeune qui était inséré dans la société, qui travaillait, mère médecin, etc., a dérapé, c'est-à-dire qu'il a contraint le jeune de 15 ans, du milieu défavorisé, à s'excuser. Mais malheureusement, il l'a contraint à s'excuser devant tout le monde. S'il l'avait contraint à s'excuser juste en sa présence à lui et en présence de son jeune frère, je pense qu'il ne se serait rien passé de plus. Mais là, il l'a contraint à s'excuser devant la société. Et donc l'autre a considéré qu'il était humilié. Qu'il était humilié et qu'il était rabaissé. Parce que quand on s'excuse, dans ce type de conflit, c'est qu'on reconnaît ses torts. Et donc on est humilié. Et lui considérait que l'autre l'avait regardé trop longtemps et qu'il n'avait pas à le regarder si longtemps. Donc là, il est allé voir son grand frère. Et le grand frère a considéré que son frère avait été humilié. Et donc après, c'est passé du registre social, au registre, du registre individuel, les deux jeunes, au registre familial, les grands frères, au registre social, le déferlement d'une bande de zozos qui sont allés faire la peau d'une manière très folle. Je peux être sûr que sur les 20, les 15 qui ont fait ça, il y en aura peut-être un ou deux qui sont très violents, mais certainement que les 13 autres, qui ont probablement participé au massacre, n'auraient jamais fait ça s'ils avaient été tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ont été pris eux-mêmes dans une folie groupale, avec l'allégeance au groupe et l'impossibilité de se différencier, l'impossibilité de dire non. Non, je ne veux pas, parce que dire non, c'est un danger de différenciation et c'est le danger de vous mettre à exclu du groupe. Donc, de ne pas pouvoir sortir de chez soi, donc de ne pas pouvoir aller dans la rue, donc de ne pas pouvoir prendre sa mob et d'être tout le temps volé, donc de pas, etc. Parce que cette solidarité groupale est extrêmement contraignante. Donc, on pourrait dire que les mécanismes d'attrait de la différence ou de répulsion de la différence trouvent tout à fait leur origine à travers cette construction identitaire dans laquelle nous sommes tous pris. Nous sommes tous pris dans cette espèce de tantôt d'être attiré par la différence et tantôt de ne pas supporter cette différence. Alors on le gère très souvent, d'ailleurs de manière paradoxale, plus l'autre est différent de nous et plus il habite aux antipodes, plus on le trouve intéressant. En revanche, plus il habite sur le palier d'à côté et qu'il est quasi comme nous, plus on le trouve chiant. Parce qu'il écoute toujours la musique à une heure pas possible, il bouffe des sardines, ça pue, etc. Donc l'autre un peu différent de nous qui est juste à notre porte a plutôt tendance à nous irriter, tandis que l'autre très différent de nous aux antipodes a tendance à nous intéresser. Donc on a une générosité, voilà. Et chacun va jouer de ce jeu entre attirance et répulsion, je dirais en fonction de son environnement, de ses propres sécurités internes et de cette paradoxe qui fait qu'il y a constamment un état de tension dans la construction identitaire et que nous devons toujours faire un effort réflexif pour que cette différence, nous la supportions, nous l'intégrions et qu'elle nous paraisse source d'enrichissement. Car ma conviction est celle-ci. Je pense que toute société qui se replie sur elle-même et qui s'organise dans un mimétisme excessif, d'abord ne fait qu'expulser les créatifs, donc ils les bannissent, donc évidemment il n'y a pas de créativité, et deuxièmement court à sa mort. Donc la différence, c'est vraiment ce qui est l'origine de la vie et l'origine de la capacité à nous renouveler et à la créativité. Donc, nos sociétés, effectivement, ont peut-être à certains égards trop favorisé cela, mais bon, là, on est dans un domaine politique. Voilà un petit peu les remarques que je voulais vous faire autour de l'adolescence et autour des enjeux contemporains dans lesquels les adolescents sont pris, parce que je crois qu'on exacerbe chez eux ce besoin de différenciation, ce qui peut les rendre, je dirais, vulnérables, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas y arriver. Et certains jeunes, dans leur effondrement dépressif, ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à réaliser cette injonction « sois toi-même ». Voilà. Je pense que nous, les adultes, on devrait avoir un langage plus modéré. Je comprends que ce n'est pas toujours difficile de se trouver soi-même et que de temps en temps, on oscille entre ressembler aux autres ou être complètement différent d'eux et de pouvoir maintenir cette tension entre ces deux pôles et pas en mettre un du côté ringard et l'autre du côté moderne, comme c'est un peu trop la situation actuelle. Peut-être que c'est le message que je voudrais vous livrer dans vos rapports éventuels avec les adolescents. Voilà, j'ai causé déjà presque une bonne heure. Je vous remercie de votre patience et nous allons répondre aux questions si vous le souhaitez. Je voulais terminer, j'ai oublié, par une remarque. Vous l'avez dans l'exposition là-haut, La fabrique de la paix. Il y a plusieurs citations d'écrivains, d'auteurs, etc. Et Robert Sabatier, bon, je l'ai prise parce que ça. Le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même. Voilà, je trouve que c'est. Voilà, ça résumait. Le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même. C'est Robert Sabatier, c'est pas de moi. Et je trouvais que ça synthétisait bien ce que je voulais dire. Toujours difficile de poser la première question, mais on est entre nous, on se connaît tous, on n'hésite pas. Voilà, une main se lève.
Bonsoir. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut aider un jeune qui est pris dans une bande pour essayer de l'en sortir et qu'il puisse ne pas faire d'erreur.
Quel âge il a ?
C'est une question comme ça. Je n'ai pas forcément d'exemple. C'est juste.
Je crois que si c'est un jeune collégien, hein, alors d'abord, il faut voir si l'appartenance à cette bande l'empêche de temps en temps d'être seul ou d'avoir d'autres relations que les relations de la bande. Un jeune, quand il ne peut avoir d'autres relations que les relations des 7 ou 8 de sa bande et qu'il est tout le temps avec sa bande, il risque de s'enfermer. L'autre chose, c'est de voir si la bande, elle doit toujours être ensemble ou si cette bande tolère de temps en temps que deux ou trois ados sont dans un coin, trois ou quatre dans un autre. Les bandes ordinaires des adolescents, on va dire de Poitiers tranquille, c'est plutôt des bandes, comme je viens de les dire, c'est-à-dire c'est 7 ou 8 jeunes qui sont ensemble et qui se retrouvent de temps en temps 2, 3 d'un côté, 4, 5 de l'autre, qui de temps en temps la bande d'une année scolaire sur l'autre, la bande va changer, etc. C'est un peu moins localisé uniquement à un quartier ou une cage d'escalier. Voilà. Il n'y a pas trop de signes d'appartenance, etc. Ça, c'est la bande de potes, la bande de copains. C'est ce que j'appelle la bande fonctionnelle. Hein. La bande dysfonctionnelle, c'est la bande qui ne supporte aucune différence et qui très vite se met à avoir des objectifs et des idéaux en hostilité avec le monde. Par exemple, consommer des produits, racketter, voler ou des choses comme ça et pour avoir de l'argent pour faire ceci, etc. Et ces micro-bandes-là deviennent très vite des bandes fermées, ne tolérant plus que les jeunes fassent autre chose que cela. Et là, quand un jeune est pris dans une telle bande, effectivement, il ne faut pas le laisser s'enferrer là-dedans. Il faut clairement le dire, tes relations me... Mais il ne faut pas que ça soit simplement que le parent n'aime pas le copain ou n'aime pas la copine. Parce que les jeunes, d'une manière générale, choisissent souvent des copains et des copines, de temps en temps, qui ne plaisent pas aux parents. Parce que quand vous choisissez un copain qui ne plaît pas aux parents, vous êtes sûr au moins que c'est votre copain. Tandis que quand vous choisissez un copain qui plaît aux parents, vous ne savez pas si ce n'est pas le choix des parents ou le vôtre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, de temps en temps, effectivement, les jeunes ont besoin de montrer qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que les parents. Donc, il faut faire attention en tant que parent. C'est pas parce que nos enfants choisissent des copains ou des copines qu'on n'approuve pas particulièrement que c'est des mauvais... La phrase habituelle des parents, quand ils ont un nouveau copain ou une nouvelle copine, c'est « Qu'est-ce que font ces... » Non, bon, pourquoi ? Parce que les parents, ils savent que globalement... Le niveau social, le métier, etc., ça leur permet de situer la famille dans quelle famille ils évoluent. Voilà. Bon, en même temps, il y a un certain conformisme social, c'est évident. Et réponse de ça, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Voilà, voilà. Parce que, sous-entendu, moi, j'apprécie mon copain uniquement pour lui et pas pour son cadre social. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, il faut être prudent. Mais donc, quand la bande, l'adhésion à la bande devient permanente, totale, que ça, les résultats scolaires commencent à fléchir, qu'il y a un peu d'absentéisme scolaire, qu'on commence à trouver des trucs un peu bizarres dans la chambre, etc. Là, il faut faire gaffe parce qu'effectivement, il y a une véritable dimension de contamination possible. Et là, il faut mettre des freins. Il faut mettre des freins, il faut engager ce que les parents ne supportent plus actuellement d'engager. Avec un garçon de 13-14 ans, il faut engager un conflit. C'est-à-dire donner des limites et dire, non, c'est pas comme ça. Et puis, il ne faut pas avoir peur qu'il soit mécontent. Voilà. Et c'est en tenant, parce que si on veut absolument... Le problème aujourd'hui, c'est que les parents voudraient que toutes leurs décisions soient approuvées par leur adolescent. Non. La plupart de leurs décisions, les adolescents ne les approuveront jamais. Même si, quand ils sont seuls, ils trouvent que c'est des bonnes décisions. Mais un adolescent, surtout s'il est un peu en situation de révolte, il ne va pas pouvoir dire, vous avez raison de m'interdire ça. Mais en même temps, parfois très étonnamment, quand les parents disent non, ils acceptent la limite. Donc ça, souvent, là, c'est plus de la pusillanimité parentale à donner des limites à l'adolescent. Alors pour un discours ambiant, il faut le comprendre, il est en souffrance. Alors moi, je déteste ce mot, il est en souffrance, ce petit chéri, etc. Voilà. De temps en temps, il faut être capable. Alors, je sais qu'il faut faire très attention quand on est conférencier, parce que ici, vous êtes tous différents les uns des autres, et chacun met met des limites à certains ont des limites que je trouve normales et parfois les parents ils ont des limites que je trouve par exemple un peu excessives, vous voyez, que je trouve donc il faut faire très attention. Alors, et les parents jugent toujours à partir de leur propre réalité psychique à eux et pas à partir de celle des autres. Alors je dis souvent aux parents, c'est pour ça que les cafés des parents par exemple c'est très important, parce que c'est un lieu où les parents peuvent rencontrer d'autres parents et les styles éducatifs des parents se comparent les uns aux autres. Et d'un seul coup, le parent peut se dire bah, « Oui, vous faites comme ça, mais moi, je ne fais pas comme ça, et, etc. » Et là, ce n'est pas moi, le psychiatre, qui dit « Non, c'est pas, alors, parce que si je dis ça, c'est tout de suite, ce n'est pas bien de faire ça. » La plupart du temps, je ne dis pas « Ce n'est pas bien de faire ça. » Je dis « Moi, je trouve que bah, vous êtes assez vous ne faites pas tout à fait comme la majorité des autres parents. » Quand c'est des parents qui disent bah, « Vous faites comme ça, bah, là, là, c'est curieux. Ouais. » Là, ça porte un autre regard. Donc, je pense que quand on a des doutes sur les styles éducatifs, la fréquentation d'autres groupes de parents est indispensable. Et c'est pour ça que plus les parents se referment et s'isolent, moins c'est bon. Plus ils s'ouvrent sur l'extérieur, mieux ça vaut.
Mais comment faire quand un enfant en fait, n'obéit pas du coup aux parents quand il essaye de lui imposer ses limites ?
Vous allez m'emmener où comme ça, évidemment ? On peut toujours continuer. Il y a, alors, d'une manière générale, quand c'est pris à 13-14 ans, il y a lorsque je vais prononcer le mot qui fâche, c'est le mot d'autorité du parent. Si effectivement, le parent, depuis la petite enfance de ce jeune, a des relations, soit des relations de contrainte par la force, soit des relations d'embobinement par la séduction, allez mon chéri, allez, et pas du tout de position d'autorité, on ne peut pas avoir une position d'autorité avec un jeune à partir de 13-14 ans quand on ne l'a pas tenu avant. Si on n'a pas de position d'autorité dans l'enfance, on n'en aura jamais à l'adolescence. Alors attention, j'ai dit position d'autorité, hein, j'ai pas dit autoritarisme, j'ai dit position d'autorité, et j'ai en particulier différencié l'autorité de la contrainte par la force ou des arguments de la séduction, ce que j'appelle circonvenir l'autre aux arguments de la séduction. Je ne veux pas faire de la pub, mais mon dernier bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il s'appelle « Le règne de la séduction ». Un pouvoir sans autorité. C'est une réflexion sur le fait qu'aujourd'hui, tous les parents sont dans une relation de séduction avec leur enfant. Et évidemment, quand vous êtes dans une relation de séduction avec un enfant, une garçon-fille, jusqu'à 12-13 ans, quand d'un seul coup, vous êtes obligé de lui dire non, ben, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et alors, les parents viennent me dire, mais il ne comprend pas l'autorité. Ben non, il ne comprend pas l'autorité. Il comprenait la séduction et maintenant, il utilise la séduction à son profit. Évidemment. Alors, là, quand vous me posez cette question, c'est une histoire d'enfance qu'il faut reprendre. À 13-14 ans, on peut encore le reprendre. Et il y a encore des positions là, qu'il faudra que les parents acceptent et assument pendant quelque temps, des positions autoritaires, sans humilier ni faire mal à l'adolescent, mais en énonçant clairement leurs limites. Et là, autour de ça, l'adolescent peut reconstruire quelque chose. Mais si les parents ne font pas ça, et s'ils se recule, ça va être encore plus compliqué plus tard. Et parfois, il n'y a pas d'autre solution que d'envisager une prise de distance respective. Par exemple, des solutions type internat de semaine ou des choses comme ça. Mais plutôt avec des plus grands, à partir de 15 ans. Voilà.
Merci.
D'autres questions ?
Oui, en fait, ma question, c'est l'adolescence. Vous le mettez sur quel créneau d'âge ? Est-ce qu'à 10, enfin, voilà, vous dites ça commence à 10, 12 ans ?
Ça commence avec les poils, l'adolescence. Voilà. Pas de poils, pas d'adolescence. Un peu de poils, des adolescents. Non, c'est très important parce que à 8 ans et demi, 9 ans, là, on a de plus en plus cette expression que je déteste qui sont les pré-ados. Moi, quand j'ai commencé mon métier, on ne parlait pas des pré-ados, on parlait des grands-enfants. Les grands-enfants, c'était ceux qui avaient entre 8 et 10 ans, 11 ans. Voilà. Maintenant, on propulse les enfants, quasiment, ils ont 9 ans, ils sont déjà pré-ados. Je pense que les gamins de 9 ans font semblant d'être des ados. Ils miment, ils jouent à être plus grands qu'ils ne sont, mais ça reste des enfants. Pour moi, l'adolescence, ça commence avec les poils. En gros, vers les filles... sixième, en gros, bon, il y a quelques filles qui commencent à avoir des pubertés en CM2, mais elles s'en sont d'ailleurs fort, fort maries de leur puberté parce qu'elles se sentent différentes des copines. Mais l'immense majorité des filles, ça tourne autour dans le courant de la sixième, plutôt vers la fin de la sixième. Et les garçons, qui sont toujours un peu décalés par rapport aux filles, c'est plutôt dans le courant de la quatrième. Voilà, ça commence là. Alors maintenant, la question qui fâche, c'est quand finit l'adolescence ? Alors, la puberté, c'est un processus qui dure en moyenne 3 à 4 ans. Donc si elle commence vers 11 ans, 11 ans et demi chez les filles, la puberté en général vers 14 ans et demi, 15 ans, elle est terminée chez les filles. Et idem chez les garçons, et un garçon de 16 ans et demi, la puberté est finie. Quand est-ce que la puberté est finie ? Quand les os des crêtes iliaques sont définitivement ossifiés, enfin plus exactement, quand le cartilage des crêtes iliaques est transformé en os. Ça s'appelle le signe de Rissler. À ce moment-là, quand les cartilages des crêtes iliaques, c'est-à-dire les os du bassin, sont ossifiés, il n'y a plus de croissance possible, c'est terminé. Donc ça, c'est la fin de la croissance. Et voilà. Alors, en termes physiologiques, ces jeunes sont devenus des adultes. Voilà. En termes psychologiques, la question, et en termes sociologiques, quand est-ce qu'on devient un adulte ? Alors moi, j'aime à dire, par exemple, que psychologiquement, on devient un adulte quand on cesse de poser des actes pour plaire ou pour ennuyer ses parents. Tant qu'on fait les choses avec l'idée que ça va faire plaisir ou que ça va ennuyer ses parents, on est pris dans ce que j'appelle un lien de dépendance oedipienne. Mais il y a probablement, peut-être ici, des gens qui continuent avec leurs parents de 60 ou 80 ans d'agir pour plaire à grand-papa ou grand-maman. Voilà. Et je connais des parents, hélas, qui sont dans un relais quand ils vont avec leurs enfants, quand ils vont voir leurs parents, c'est-à-dire les grands-parents de l'enfant, se font traiter comme des gamins par les grands-parents en présence du petit enfant. C'est-à-dire qu'ils sont disqualifiés en permanence et ils ne sont pas capables de dire à leurs parents, donc les grands-parents, écoute, ça suffit, hein, t'as pas à me parler comme ça quand il y a mon fils ou ma fille qui est présente. Et ils se comportent comme s'ils étaient fautifs d'avoir fait un gamin. Donc ce sont des gens qui ne sont pas sortis de leur névrose oedipienne. Ils se comportent encore comme des non-adultes. Donc il n'y a pas d'âge de sortie de l'adolescence. Et j'aime à dire, au plan social, c'est pour ça que je continue, au plan social, j'aime à dire que nous sommes entrés dans la période de retardement de l'évolution. Le défi auquel les jeunes doivent répondre, c'est qu'ils doivent garder des capacités d'adaptation, de plasticité et de changement toute leur vie. C'est-à-dire qu'à 30 ans, à 40 ans, il faut être capable de changer de métier, réapprendre, etc. Donc aujourd'hui, un jeune qui termine son apprentissage à 16 ans et qui se marie à 17 ans, il a de forts grands risques de se retrouver chômeur, etc. Voilà. Donc la plupart des jeunes aujourd'hui maintiennent un état, on veut dire, d'indétermination le plus longtemps possible. D'où l'apparition de néologismes tels que adolescents, hein, ces adultes qui sont encore adolescents. D'où effectivement, j'ai dit, vous savez, si on réfléchit un peu, les Latins et dans la société médiévale, il y avait ce qu'on appelait les juvénès. On était juvénès jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'on devienne un pater familias. Et quand est-ce qu'on devenait un pater familias ? Quand on avait 40 ou 45 ans. Avant, on était un juvénès. Donc, c'est ça qu'on est en train de. Voilà, la juvénilité adulte. Je pense que c'est un état d'indétermination dans lequel s'installent les adolescents, qui leur permet de ne pas être trop vite verrouillé dans un état statutaire et identitaire. Voilà. Donc, rester adolescent, je pense que nous allons vers une société où nous serons tous, où tous les individus deviendront des adolescents. Voilà, d'une certaine manière. Je suis un peu provocateur, mais l'idée, c'est arrêter de gémir en disant « il n'y a plus d'adultes ». D'abord, premièrement, je ne sais pas ce que c'est que des adultes. Et deuxièmement, voilà, la société a d'autres objectifs maintenant, il faut faire avec. J'ai répondu à votre question ? Alors, ne vous plaignez pas si vous avez des adolescents. Nos jeunes, c'est vrai que des fois, on dit, moi, j'ai 19 ans. Quand j'avais 19 ans, quand j'avais ton âge, j'étais déjà indépendant, j'avais ma maison, je faisais ma lessive, j'avais ma vie, etc., j'avais mon métier. Alors que toi, tu es encore en train de te poser des questions existentielles sur ce que tu veux dans la vie. C'est qu'effectivement, d'abord, il va vivre jusqu'à 85 ou 90 ans. Il va bosser jusqu'à 72 ans, donc il a peut-être le temps de prendre son temps, hein, voilà, etc., etc. D'autres questions ? Oui, devant, là, il y a la dame qui est un peu timide, là, mais levez franchement le doigt, là.
Oui, alors, je voulais vous demander si, quand même, il n'y a pas un double problème, justement, actuellement. C'est qu'effectivement, on dit que les jeunes restent peut-être dans le cocon familial. Mais j'ai l'impression que les parents ne veulent pas couper le cordon.
Alors, tout Tout à fait. Vous avez, c'est une bonne chose de remettre l'équilibre. Il y a à la fois, pour certains jeunes, une difficulté à partir, mais qui sont aussi des difficultés matérielles, financières, en termes de travail, d'emploi. On fait subir à la classe des jeunes quand même un niveau de chômage ou un niveau de scolarité très prolongé, et tous les parents n'ont pas les moyens d'autonomiser complètement les jeunes. Donc il y a ça. Deuxièmement, ça c'est le plan social. Sur le plan relationnel et affectif, au fond, plus aucun parent maintenant, s'il y a le copain qui est dans la chambre ou la copine qui est dans la chambre, ne s'autorise à rentrer dans la chambre en disant « Fous le camp de là, tu n'as pas le droit d'être dans cette chambre tant que vous n'êtes pas marié ». Donc tous les parents aujourd'hui acceptent que le conjoint, le copain ou la copine viennent dans la chambre et on n'écoute pas, même s'il y a des cris un peu intenses, on se tait, on met la télévision plus fort pour éviter d'être trop haut, bien qu'on essaie quand même d'écouter un peu. Alors dit en d'autres termes, les jeunes ont conquis leur autonomie sexuelle et leur autonomie de vie. Au fond, s'ils se comportent de manière un peu polie en disant ce soir je rentre à 11h du soir quand ils ont 18 ans ou 19 ans, hein, je ne vous parle pas des jeunes de 13 ans, mais quand ils sont jeunes adultes, bon, les parents leur donnent une liberté totale. Alors qu'il y a 50 ou 60 ans, même à 20 ans, on devait faire exactement comme les parents disaient. Il n'était pas question que la petite copine, etc., vienne coucher à la maison, etc. Il fallait aller dans la grange ou dans la banquette arrière de la bagnole, ce qui n'était pas toujours pratique. Maintenant, ils peuvent être dans le lit, ce qui est quand même plus confortable. Donc, dit autrement, les jeunes n'ont plus rien à conquérir à devenir indépendants. Ils n'ont plus rien à conquérir. Donc, il y a les problèmes sociaux. Il y a le fait que les jeunes n'ont plus rien à conquérir en devenant indépendants. Ils ont même plutôt à avoir des emmerdements, de devoir faire leur lessive et de faire la bouffe et d'aller faire les courses. Alors que là, en général, chez maman et papa, c'est fait spontanément. Et troisième point, alors ça c'est les deux points, le point social, le point de confort du jeune, on va dire. Et troisième point, celui que vous soulignez, le point de quoi ? Le point du renversement de la problématique des générations, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous avons besoin du regard des autres, hein, du regard de considération des autres. Or, tant que le couple était stable, c'était le regard du couple, même si on se détestait. Au fond, un regard de détestation, c'est encore un regard... on se détestait, et c'était en général le couple et le conjoint qui assuraient cette reconnaissance sociale. Aujourd'hui, les couples se défont, se refont, on en est à deuxième, troisième, quatrième union, et où siège aujourd'hui l'indissolubilité du lien. On a remplacé l'indissolubilité du lien conjugal par l'indissolubilité du lien de filiation. Et aujourd'hui, la plupart des adultes quêtent dans leur enfant le regard de reconnaissance affective. Les enfants sont devenus la source d'approvisionnement affectif de nombreux adultes. Et beaucoup d'adultes, en particulier quand ils ont l'âge où les enfants peuvent partir, c'est-à-dire 45-50 ans, âge où ils ont un boulot, où ils ont des revenus, où le conjoint soit les enquiquine, soit est parti, eh bien, la présence du jeune de 24-25 ans est une présence humaine dont on n'a pas envie de se défaire. Et le nombre de parents qui sont prêts à être les, non pas les esclaves, mais à être les bons amis ou les bonnes copines, en faisant un peu trop tout, c'est-à-dire en ne posant pas de conditions à cette cohabitation transgénérationnelle. Je veux bien que tu restes, ça me plaît, on discute, mais tu fais quand même régulièrement, tu feras un repas deux fois par semaine, tu feras tel truc, etc. De mettre des contraintes matérielles à cette cohabitation. La plupart des parents sont dans l'incapacité. Et là, je pense que c'est le prix que les parents acceptent de payer pour ne pas se retrouver seuls. Et donc, en même temps, c'est une entrave terrible à la capacité des jeunes de s'autonomiser. Donc, vous avez raison de poser. Et ça doit s'examiner dans les trois, vous voyez, les trois facettes. Je crois qu'il ne faut pas en oublier une. Il y a la facette sociale, la facette du jeune lui-même et la facette parentale. Et c'est les trois qui expliquent l'évolution des choses. Voilà. Alors après, selon les situations, c'est l'un qui va en emporter sur l'autre. Mais globalement, voilà. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Vous avez raison. Attention, si vous parlez, parce que redonnez le micro à madame, parce que derrière, ils n'entendront rien.
Oui, c'est ce que je pensais, effectivement, c'est qu'on prend, du coup, la situation sociale, on la développe justement pour que l'enfant ne parle pas, ne parte pas.
Oui, oui.
Parce qu'on est toujours là à se dire, oh, mais il ne peut pas vivre.
Oui, bien, il ne peut pas vivre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois, on stimule l'individualisme et l'autonomie dans notre société. On le stimule peut-être au-delà même du raisonnable, alors que fondamentalement, nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin d'une relation de dépendance. Or, aujourd'hui, le mot dépendance est devenu un mot ordurier. Et d'ailleurs, on parle des pathologies de la dépendance. Être dépendant, c'est être malade. Et là, il faut être autonome. Or, je pense que c'est la dépendance est un besoin essentiel de l'être humain. Donc, il ruse. Il ruse pour satisfaire son besoin de dépendance. Et si un adulte dit, moi, j'ai besoin de me sentir dépendant, il va apparaître comme ringard. Or, nous avons tous besoin de nous sentir dépendants. C'est ça, le paradoxe. C'est ça, le fondamental paradoxe. Ah, je vois que ça commence à... nous, les psys, psychologues, psychiatres, nous avons... C'est pas par hasard si on n'arrête pas de parler des pathologies de la dépendance, alors que moi, quand j'ai commencé mon métier, on ne parlait pas de pathologie de la dépendance. C'est comme si, effectivement, aujourd'hui, être dépendant est devenu pathologique. Alors, il n'y a plus qu'avec les bébés et les très jeunes enfants où la dépendance est un état dans lequel on peut plonger délicieusement, donc toute mère avec son bébé et avec son nouveau-né peut s'abandonner à la jouissance de la dépendance. Elle dépend de son bébé comme son bébé dépend d'elle. Et là, ce n'est pas honteux. Mais dès qu'il va rencontrer l'école, il faut qu'il soit autonome. Et donc, elle va être prise dans un conflit entre cette nostalgie de la dépendance et ce besoin de l'autonomie féroce dans lequel la société nous pousse. D'autres questions ? Au fond, là, vous n'avez pas posé de questions. Le carré du fond.
Ah. Merci.
Oui, ça marche, les yeux aussi.
D'accord. Vous disiez justement que les parents poussaient les enfants à rester adolescents, enfin les jeunes à rester adolescents. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus tôt, les jeunes veulent faire comme les adultes, au moins pour les aspects qui pensent positif du fait d'être.
Les aspects qui pensent positif, c'est-à-dire par exemple fumer, c'est-à-dire par exemple être s'habiller comme ils veulent, qu'est-ce que être amoureux, c'est.
Il y a fumer pour beaucoup, oui.
Oui.
S'habiller, pouvoir être pas être dépendant, être indépendant au niveau financier,
oui.
Gagner son argent, etc.
Oui. Très justement, comme vous le remarquez, les deux tendances sont toujours en ligne, hein, elles sont toujours en conflit l'une avec l'autre. Et le début de l'adolescence, le jeune adolescent, il a souvent des velléités, c'est-à-dire des besoins d'affirmation de son désir d'indépendance. Moi, ce que je veux, c'est être. Alors, d'ailleurs, je veux, c'est être indépendant. Ils disent d'ailleurs même pas autonome, hein, ils disent indépendant. Or, l'indépendance, quand on a. C'est pas possible. On est toujours dépendant de quelque chose. Hein, on est toujours dépendant de la société, dépendant. Alors on peut être autonome à l'intérieur d'une certaine dépendance qu'on accepte. Voilà, hein. Donc l'objectif, c'est de devenir autonome, c'est pas d'être indépendant, en fait. Et un jeune qui effectivement dit, moi, ce que je veux, c'est être indépendant. Je veux. L'autre jour, j'avais un jeune qui dit, ah ben oui, moi j'en ai marre de ma mère. D'ailleurs, je dépends pas d'elle. Hein, je dépends pas d'elle. Moi, ce que je veux, c'est une chambre. Il est en train de redoubler sa terminale et puis ça cheminait vers un triplement. C'est une chambre et puis voilà. Et puis je veux être indépendant, etc. Mais j'ai dit, mais qui c'est qui va payer la chambre? Bah, il dit ma mère. Ah, j'ai dit, ah bon, parce que être indépendant, c'est votre mère qui paye votre chambre. Alors, et à un moment, j'ai dit. J'ai l'impression que vous êtes un champion de la dépendance. Et alors là, ça l'a mis en colère. En colère, parce que je touchais du doigt, alors qu'il ne voulait rien entendre, je touchais du doigt, cette espèce d'installation dans une dépendance toute puissante, c'est-à-dire une dépendance capricieuse, tout m'est dû. Voilà. Alors, l'indépendance, je dirais, c'est la dépendance capricieuse. Je veux tout, le beurre et l'argent du beurre. Et accéder à... Alors, il est normal qu'un jeune de 14-15 ans, soit dans cette revendication. Moi, je veux faire comme les adultes. Je veux fumer, je veux boire, je veux dépenser mon argent, je veux, etc. Je veux accéder à tout ce que les adultes me proposent. Et ça, c'est souvent les jeunes adolescents. Et puis, quand la jeune acquiert un peu d'expérience, à partir de 16, 17 ans, il commence à avoir un autre discours. Il faut que je travaille pour gagner de l'argent, il faut que je trouve des petits boulots. Je ne veux pas dépendre de mes parents pour tous mes besoins. Je veux qu'il y ait une partie de mes besoins, les assumer moi-même. Et ça, c'est l'évolution vers la santé et vers l'autonomie. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Et après arrive cet âge, un âge qui, je crois, est difficile pour beaucoup aujourd'hui. C'est l'âge de la fin des études et l'entrée dans la vie active. La fin des études et l'entrée dans la vie active, c'est-à-dire 25, 26 ans. D'abord, ce n'est pas facile de trouver du boulot. Beaucoup de jeunes, bien qu'ayant fait des études correctes, sont dans... Moi, je trouve que c'est des métiers que je connais, mais des jeunes psychologues qui ont fait leurs études de psychologie, des fois, ils mettent 2 ans avant de trouver un boulot. Et souvent, ils n'ont pas les moyens financiers d'être complètement autonomes. Donc, il faut qu'ils soient encore dépendants de la situation familiale, ce qui n'est pas toujours facile pour eux et parfois très douloureux. Donc, il y a souvent cette période. Et puis, effectivement, il y a les parents qui, parfois, offrent un havre de paix et de confort à l'adolescent qu'il faudra quitter. Donc, tout ça est à mettre en jeu. Vous voyez, tout ça est des tensions. C'est des tensions contradictoires. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Et vous avez... D'autres questions ? Comme vous voulez, les 10 heures, vous voulez. Si vous voulez, si vous en avez assez, vous pouvez partir. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester assis. Hein, vous êtes libre. Hein, vous êtes libre. Pas obligé. Mais si vous avez envie de poser encore une question, on peut dire qu'il est 10h10. On peut s'arrêter dans 5-10 minutes, si vous voulez, si vous avez des questions à poser. Sinon, vous, ceux qui en ont assez peuvent s'en aller. Hein. C'est pas, ne vous sentez pas obligé d'être resté là. Voilà. Oui.
Comme vous nous obligez à poser des questions. non, je voudrais... Enfin, tout à l'heure, vous avez dit que la première différence que l'adolescent met en place, c'est notamment la différence des générations. Et après, vous parlez de ce lien indissoluble qu'il y a dans la filiation. Et c'est un peu contradictoire pour moi. Dans le sens où cette différence, elle peut pas s'établir, enfin l'altérité, elle peut pas s'établir si l'enfant est, enfin si l'adolescent, il est toujours pris dans ce lien infantile, quoi. Et c'est
deux choses. Un, vous avez raison de souligner cette contradiction. Deux, hélas, les contradictions font partie de la vie. Et par exemple, les adolescents qui demandent à être dépendants, je veux être indépendant, je veux faire ce que je veux. Et quand ils sont malades, tu viens avec moi chez le docteur. Ah, ça c'est typique, vous voyez. Je veux pouvoir sortir quand je veux, rentrer quand je veux, mais si j'ai un acte social à faire, accompagne-moi pour aller chez le docteur. Bon, qu'est-ce que c'est qu'il y a là ? Il y a à la fois la revendication d'indépendance, comme on a évoqué, et en même temps, il y a le besoin, dans des actes encore, de se sentir accompagné, de se sentir soutenu. Et être adolescent, c'est vivre ce paradoxe, et être parent d'adolescent, c'est accepter ce paradoxe. Alors, effectivement, et d'autre part, là, vous avez évoqué, c'est ce que vous évoquez, c'est à des âges différents. Là, ce que j'ai évoqué dans le besoin de montrer qu'on n'est pas de la même génération, c'est typiquement le jeune adolescent, le jeune collégien de 5e, 4e, voilà, 3e. Donc celui qui a 13 ans, 14 ans, voilà, qui montre qu'il est « je suis pas comme vous, j'ai mes plaisirs désormais », etc. Et puis celui qui peut plus s'en aller de chez ses parents, c'est le jeune adulte qui a 24, 25 ans, qui lui a accédé à sa vie amoureuse, à sa vie sexuelle, à ses copains, qui sort, que ses parents laissent sortir, et qui a sa vie sociale, bien que continuant à dormir chez papa-maman, lesquels autorisent leur enfant, garçon ou fille, à vivre la vie telle qu'il l'entend, et acceptent tout à fait le petit copain ou la petite copine qui vient manger à la maison, etc. Donc il y a une sorte de modus vivendi, hein, d'agrément comme ça, où je suis un peu chez mes parents, mais je ne suis pas complètement chez eux, je fais ce que je veux, tout en étant quand même sous leur toit, voilà. Et cette situation, pour les trois raisons que j'ai évoquées, individuelle, sociale et puis parentale, cette situation peut parfois s'éterniser. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas complètement contradictoire, mais voilà. Mais le jeune en lui-même, il a aussi parfois le sentiment de de vouloir des choses contradictoires. Hein. Une dernière question ? Oui, là-bas. C'est bien.
Oui, j'avais envie de vous demander comment, si toutefois la question a une réponse, comment, quand un enfant a eu des difficultés à construire son identité parce que, porteur d'une différence, il lui a été renvoyé un regard au moins d'incompréhension, voire d'hostilité, comment les choses ont-elles une chance de se réorganiser plus favorablement à l'adolescence ?
Vous avez, c'est effectivement, chaque fois qu'il y a des blessures, on va dire, des blessures que nous on appelle des blessures narcissiques ou des blessures, des cassures dans l'histoire, ou ce que vous laissez sous-entendre, des relations par exemple d'humiliation, de dévalorisation. Alors, un, soyons prudents, les carottes ne sont pas nécessairement cuites. Il y a d'abord, il y a des parents ou des, le groupe, les autres personnes peuvent avoir reconnaître. Non, voilà. Deux, il est très important dans ces situations-là de permettre à l'enfant d'abord, au jeune adolescent ensuite, de s'exprimer dans un endroit où il est compétent et où il peut être reconnu. Même si cette compétence ne plaît pas nécessairement aux parents. Par exemple, s'il adore les échecs, en général, les parents n'ont pas trop de mal à le laisser jouer aux échecs. Mais s'il est très doué dans les jeux d'ordinateur et qu'il se réalise, alors au prétexte que ça lui bouffe le temps, les parents ou la mère qui est là va faire barrage. Alors qu'elle aurait plutôt intérêt à lui dire, je vois bien que tu es très doué dans des... Ça me plaît bien que tu sois doué au moins là-dedans. Bon, il faudrait faire attention que ça ne bouffe pas ta vie. Mais moi, je te soutiens, d'accord, t'es doué. Tu es vraiment créatif dans ce domaine. Voilà. C'est-à-dire, et non pas de lui dire, t'es nul, tu vas encore perdre ton temps, tu ferais mieux de faire des études. Voilà. Donc, et plus un jeune a été disqualifié, plus il faut le reconnaître, et les adultes qui ne l'ont pas disqualifié, il faut qu'il fasse un effort pour le reconnaître dans une de ses compétences. Parce que le risque, effectivement, s'il n'y a pas ces points d'appui, si le jeune n'a aucun investissement, aucun intérêt, c'est qu'il se sabote lui-même et qu'il ait ce qu'on appelle cette identification négative. Je ne sais pas qui je suis, mais puisqu'on me dit que je suis nul, je vais être le champion des nuls. Parce qu'un des problèmes des adolescents, c'est qu'ils peuvent toujours avoir le génie de ce qu'on pourrait appeler leur destructivité. Je peux devenir un génie dans la destructivité de moi-même. Et plus je me détruis, plus je suscite l'angoisse de mes parents et plus je les tiens dans la main. Parce que mes parents s'angoissent de me voir me détruire. Et là, c'est moi qui mène la danse et qui les tiens. Et donc, il y a là quelque chose, il y a une pente extrêmement savonneuse et dangereuse qui peut emmener des adolescents dans des situations calamiteuses pour eux. Hein. Et cela, la manière de l'éviter, c'est en faisant ce que je vous ai dit avant. Hein, et en travaillant sur les aspects positifs, en espérant que ce jeune en ait quand même, ou en lui donnant les moyens de les révéler. Donc, de multiplier les occasions de rencontres, de choses comme ça. Je dis souvent comme ça, quand il y a eu 2-3 échecs, ça fait rien. Essayez encore une fois. Peut-être que cette fois-là, ça sera la bonne. Je crois qu'il ne faut pas désespérer à ce niveau-là. J'ai répondu un peu à votre question. Alors là, on est clairement dans les... Alors, puisque madame a évoqué cela, je tiens à le dire, et pour les adolescents, c'est vraiment très clair. Et par exemple, par rapport au gars, c'est évident. L'humiliation, chaque fois qu'on humilie un enfant, chaque fois qu'on humilie un adolescent, on lui fait une plaie vive dans ce qu'on a appelé dans l'image de lui-même et dans son tissu narcissique. C'est-à-dire, on en fait un écorché. Et ce sont ces gens qui, après, quand vous les regardez, ont le sentiment qu'on les dévisage. Donc l'humiliation, c'est une toxine effroyable. Et chaque adulte qui humilie un plus faible, pour moi, j'aurais envie de le déculoter, de lui donner une fessée devant tout le monde, cet adulte. Parce que la jouissance à humilier un plus faible, c'est pour moi la pire des choses. Et Dieu sait si c'est fréquent. Voilà. Ouais. Levez la main parce que la dame n'a pas vu derrière. Cette fois, ça.
Merci. Du coup, moi, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire, parce que moi, j'ai pas d'enfants, j'ai des copines qui ont des enfants donc en bas âge, Et elle me disait que pour que leurs enfants leur obéissent, en fait, genre, elle lui faisait une petite tape sur la main et tout. Et du coup, ils étaient humiliés. C'est comme ça qu'ils obéissaient. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'humiliation, voilà, c'est très dur pour
si
les
la
enfants,
tape sur la main est accompagnée d'une espèce de... Alors, premièrement, en tant que pédopsychiatre, je considère que la gifle, il n'y a pas de bonne gifle et il n'y a pas de bonne tape. Tout acte physique destiné à contraindre un enfant, c'est, de mon point de vue, un échec du contenant parental. Donc, je ne fais pas l'apologie des échecs. Voilà. Je ne vais pas mettre les parents en prison au prétexte qu'ils ont mis une petite tape à leur enfant. Et pour moi, c'est un échec de la relation parentale. Si, en plus, la tape, elle est mise avec une dimension de moquerie et cette espèce de petit sourire de supériorité et humiliant que l'enfant ressent très bien, là, évidemment, il est plus faible que l'adulte. Il va céder. Et il va céder avec une petite écorchure d'humiliation qui, un jour, se rappellera à lui. Donc, si là, les parents veulent écorcher leur enfant, qu'il continue.
Là, ce n'est pas le cas. C'est voilà. Vraiment pour essayer que l'enfant... Ben,
Non, mais en faisant ça, ils font cette écorchure. Donc, il faut qu'ils changent de stratégie. D'accord. Et si la main part... Après que le parent s'est retenu et que la main part, quand le parent n'en peut plus, c'est plus le parent qui commande, c'est la main qui commande. Et là, ça va mal. Donc c'est aux parents de décider d'arrêter avant qu'ils n'en peuvent plus. Et non, tu peux y aller, tu peux faire ce que tu veux, je ne céderai pas. Tu peux me pousser à bout, je ne céderai pas. Et puis là, tu vois, je suis en train de venir à bout. Alors maintenant, tu vas aller avec ton père. Et s'il n'y a pas de père et si la mère est seule... Tu vas aller avec le voisin ou je vais t'emmener chez... On va en parler. C'est-à-dire, moi, arrêtons de parler des femmes seules, des mères seules. Une mère n'est seule que si elle a décidé d'être seule. Nous sommes dans une vie sociale. Et une mère seule, quand elle se retrouve seule parce que le géniteur est foutu le camp, eh bien, elle décide, à partir d'aujourd'hui, je m'appuierai sur telle, telle et telle personne. Je décide de ne pas être seule dans la vie. Madame qui fait la moue devant, c'est une position de principe. C'est la seule position qui évite d'être dans une relation de séduction avec son enfant qui se retournera contre l'un et l'autre quand il aura 15 ans. C'est tout. Voilà. Si vous êtes d'accord pour la fin de la phrase, il faut en tirer la conséquence avant. Ah voilà. C'est ça la difficulté. Merci. Bon. Une dernière question, et après, promis, c'est la dernière. Derrière le monsieur, parce que, voilà, et puis après, vous êtes terrible, hein, maintenant, on va s'arrêter, vous n'arrêtez plus de poser des questions. Allez.
Bonsoir.
Bonsoir.
On a parlé des adolescents qui sont bien de chez nous. Je voulais savoir si, effectivement, il y avait un dénominateur commun avec d'autres adolescents, d'autres civilisations, d'autres... avoir une vision un peu plus large.
Oui, alors, bon, moi, j'ai un peu voyagé à l'étranger. J'ai vu, c'est vrai. Alors, dans les sociétés, par exemple, si on va au Vietnam, c'est vrai qu'au Vietnam, par exemple, je cite ça parce que les adolescents, ils filent droit. Les parents sont encore dans cette espèce de posture que, moi, j'ai l'impression qu'était un peu la celle des parents il y a une petite centaine d'années, avec des situations contrastées, puisqu'à la fois... Ils sont dans des postures morales telles qu'on avait peut-être, et en même temps dans des postures de stimulation, de gadgeterie, enfin en termes d'Internet, etc., qui les met dans des situations très, très contrastées. J'ai été également dans les pays du Maghreb, la Tunisie plutôt, le Maroc, surtout plus la Tunisie. J'ai l'impression aussi qu'il y a des mosaïques, par exemple la croyance. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. C'est une pensée qui n'existe pas dans beaucoup de pays maghrébins et dans des pays tels que, par exemple, le Vietnam. C'est une hérésie de penser ça. Et nous, les Occidentaux, c'est notre croyance. C'est notre religion laïque. Alors, évidemment, les valeurs, par exemple, les valeurs qu'on va développer, nous, elles doivent être en lien avec cette croyance religieuse. Alors que les valeurs qui sont développées, effectivement, c'est la valeur de la famille, la valeur du clan, la valeur de la religion qui l'emporte sur toute autre considération, évidemment que, par exemple, le mot autorité ne peut pas avoir la même signification dans ces différents pays-là. Alors, ceci étant dit, le besoin des adolescents de se différencier, de construire leur identité, d'osciller entre le mimétisme et la différenciation, ça, je crois l'avoir vu dans toutes les sociétés. Simplement, les mécanismes d'échappement ou les mécanismes de contrainte sont plus ou moins forts ou plus ou moins importants. Et dans beaucoup de sociétés, les adolescents sont mis en demeure de devoir faire ce que la génération précédente attend nécessairement d'eux. Hein, c'est pas, je crois qu'il ne faut pas trop idéaliser, c'est parfois assez contraignant. Hein. Je pense que même si notre société n'est pas toujours accueillante pour les jeunes adultes, puisque le chômage, etc., en revanche, elle permet l'expression de la différence de chacun, l'expression de l'originalité de chacun, comme probablement aucune culture ne l'a permis avant. Ce qui est quand même une certaine richesse pour chacun. Voilà. Voilà comment je dirais les choses. Mais il faut se méfier de trop de particularisme et de trop de communautarisme qui risque d'être parfois dangereux. Bien. Bah écoutez, je vous remercie de votre patience et je vous souhaite un bon retour.